VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 18h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. On commence par la politique en RDC. Les États-Unis continuent de suivre de très près la situation en République démocratique du Congo. John Lindon s'est entretenu avec Thomas Perriello, émissaire spécial américain pour la région des Grands Lacs.
Le diplomate américain a qualifié la situation en RDC de fragile. Une fragilité renforcée par l'annonce d'un gouvernement par le président Kabila quelques minutes avant la fin officielle de son mandat.
L'annonce d'un gouvernement le 19 décembre dernier, 5 minutes avant minuit, n'était pas un signe rassurant. Je crois que tout le monde continue à espérer une fois encore que tous les acteurs clés arriveront à un consensus.
Les États-Unis, a-t-il souligné, ont décidé de cibler les sanctions, non pas sur l'ensemble du pays, mais sur certains des pires acteurs qui ont été les plus responsables de la violence, des massacres, de la répression et de la fermeture de l'espace politique. À la question de savoir si les États-Unis envisageaient également de prendre des sanctions contre le président Kabila et sa famille, Thomas Perriello a laissé entendre que cette hypothèse n'était pas écartée.
We've heard from people on Capitol Hill, both Republicans and Democrats, an interest in looking.
Nous avons des membres du Congrès, républicains et démocrates, marquant un intérêt à examiner de près les avoirs de la famille Kabila. L'excellente enquête de Bloomberg News la semaine dernière a permis de lever le voile sur la fortune des Kabila à travers le pays.
Le diplomate américain espère toutefois que malgré l'influence de certaines personnes, un miracle est encore possible.
Il y a certaines personnes qui ont une influence excessive, notamment le président. Nous croyons que s'ils se réunissent de bonne foi sous l'égide des évêques catholiques, nous pourrions encore voir un miracle de Noël en RDC et espérer un chemin pacifique et démocratique vers l'avant.
Si l'on peut franchir cette phase de transition et voir l'état des droits à l'œuvre, le potentiel de développement est énorme pour l'ensemble de la région des Grands Lacs, a souligné Tom Perriello.
RDC toujours, l'accord négocié sous la houlette de l'Église catholique pour sortir de la crise provoquée par le maintien en pouvoir du président Joseph Kabila reste à portée de main, mais ne devrait être signé qu'après Noël, annonce l'AFP. C'est illusoire de penser à une signature aujourd'hui, vendredi, mais on peut aboutir à un consensus en plénière. Ce vendredi, a déclaré à l'AFP une source à la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, à propos de la séance plénière convoquée aujourd'hui pour adopter les termes définitifs de l'accord. Selon cette source, la signature pourrait intervenir entre Noël et le Nouvel An. Pourtant, les délégués des deux camps, la mouvance présidentielle et l'opposition, avaient affiché un certain optimisme à la sortie des négociations jeudi soir. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Kinshasa, Charlie Kasereka.
C'est tard dans la nuit que les évêques et les membres des deux délégations sont sortis de la salle pour rencontrer la presse. Et les évêques, comme les quelques délégués, se sont exprimés devant les médias avec des petites réserves. Mais dans les propos, on pouvait sous-attendre à une certaine satisfaction. Il se peut que Kabila ait fait de larges concessions pour faire avancer les négociations. Il a par exemple accepté, selon plusieurs sources ici, qu'il soit écrit dans l'accord qu'il ne se représenterait pas pour un troisième mandat et qu'aucun projet de modification de la Constitution ne soit entrepris. Mais c'est lui, Kabila, qui conduit la transition. Une autre avancée à signaler pour ces négociations est que l'organisation de la présidentielle vient d'être avancée pour fin 2017 et non plus en 2018. Dans la démarche, il y aura recomposition des gouvernements provinciaux, mais l'Assemblée nationale et le Sénat demeurent, comme aussi les assemblées provinciales. Charlie Kasereka, Kinshasa pour VOA Afrique.
Au Cameroun, sommet des chefs d'État de 6 pays d'Afrique centrale aujourd'hui à Yaoundé. Pas question d'une dévaluation du franc CFA. Tel est le consensus des participants à cette réunion convoquée d'urgence par le président du Cameroun, Paul Biya, qui s'est inquiété dans son discours d'ouverture d'une croissance en berne et du retour de l'inflation dans la sous-région. Des problèmes dus notamment à la chute des cours du pétrole et des matières premières. La croissance en 2016 ne sera que de 1% dans la sous-région contre 2,4% en 2015, a indiqué cette semaine la BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale. En comparaison, l'Afrique de l'Ouest se porte nettement mieux. La Côte d'Ivoire, par exemple, a enregistré une croissance de 8,5% par an en moyenne entre 2012 et 2015. Et le Sénégal revendique une hausse de son produit intérieur brut, le PIB de l'ordre de 6% pour 2016. À noter que la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, et le ministre français de l'économie, Michel Sapin, étaient présents à ce sommet de la CEMAC, la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale qui regroupe le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RCA, Noël à la maison. C'est le nom d'une opération lancée par le gouvernement centrafricain qui vise à inciter les quelques 28 000 déplacés du site de l'aéroport de Mpoko à Bangui à regagner leur domicile. Depuis cette semaine, le camp de fortune est en plein démantèlement. Au reportage de notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Alors que le site est en pleine destruction, certains déplacés ne savent pas encore où aller. Les maisons de location sont devenues rares et les prix ont même doublé dans les quartiers supposés être en sécurité. Ce père de foyer a dû négocier provisoirement une chambre chez son cousin.
Dans le 3e arrondissement, nous avons notre maison là-bas. Comme la guerre a commencé, on a quitté, on a regagné l'aéroport Sidimpoko. La maison est détruite, tout est pillé, il n'y a rien, c'est rien qui est terrain nu, il n'y a rien dedans. J'ai demandé à un cousin de dormir chez lui comme la famille d'accueil. Après, je vois que si je peux avoir une maison. Mais c'est un peu difficile, hein. Avec mes maigres sommes, je ne peux pas payer une maison comme ça. J'ai des enfants et ma femme. Et puis, tu vois, c'est un peu difficile. Je n'arrive pas à louer une maison.
8 000 ménages représentant 28 000 personnes devront vider d'ici la fin de l'année le site des déplacés de l'aéroport de Bangui. L'opération bénéficie de l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Attentat de Berlin en Allemagne, fin de cavale pour l'auteur présumé de l'attaque au camion Bélier dans la capitale allemande. Anis Amri, un Tunisien de 24 ans, a été abattu lors d'un contrôle de police dans la nuit à Milan, ont annoncé ce vendredi les médias italiens, une information confirmée par le ministre de l'Intérieur de l'Italie.
Peter Frank, le procureur fédéral allemand.
Nach unserer Erkenntnis haben die italienischen Behörden.
Même si cela signifie que le suspect Anis Amri est décédé, notre enquête se poursuivra. Pour nous, il est très important de déterminer s'il y avait un réseau d'assistance, un réseau de soutien, de planification et d'exécution de cet acte et de l'évasion du suspect.
Des hypothèses très plausibles, puisque le groupe État islamique a indiqué que l'homme abattu vendredi par la police italienne à Milan était bel et bien celui qui avait mené une attaque meurtrière au camion Bélier à Berlin. Selon le quotidien italien La Repubblica, Anis Amir a été abattu à Sesto San Giovanni, près de la gare de cette ville, située à 10 km environ au nord de Milan, vers 3 heures du matin. Une fusillade aurait éclaté dans la nuit quand les policiers italiens lui auraient demandé ses papiers, car il circulait de façon suspecte. Et selon le ministre italien de l'Intérieur, Marco Minniti, il a ouvert le feu sur les deux policiers. La Repubblica indique que le suspect a été identifié par ses empreintes digitales. Avant de s'installer en Allemagne en juillet 2015, il avait passé 4 ans en Italie peu après son arrivée de Tunisie sur l'île de Lampedusa en 2011. Il avait été condamné pour avoir mis le feu à une école.
Merci Salwa Jafari. On passe à l'actualité aux États-Unis. Le président élu américain Donald Trump affirme vouloir renforcer et augmenter les capacités nucléaires des États-Unis. Cette déclaration intervient seulement un jour après que le président russe Vladimir Poutine a tenu des propos similaires. Gabi Dorsil.
Selon Vladimir Poutine, l'arsenal nucléaire de la Russie mérite d'être considérablement accru. Dans ses commentaires sur les diverses campagnes de l'armée russe en 2016, M. Poutine a expliqué que ces améliorations permettront de neutraliser n'importe quelle menace militaire. Il nous faut surtout des missiles capables de pénétrer efficacement tout système de défense, a-t-il ajouté. Les États-Unis et la Russie possèdent actuellement une quantité presque identique d'armes nucléaires, soit 7100 et 7300 respectivement, selon des données compilées par une association non partisane basée aux États-Unis. L'appel de Donald Trump intervient également au lendemain d'une rencontre en Floride avec plusieurs hauts gradés de l'armée américaine. On ignore cependant s'ils ont discuté de la question nucléaire. Durant la campagne électorale, M. Trump avait vacillé sur ce thème, suggérant tantôt que le monde serait plus sécurisé avec davantage d'armes nucléaires, mais disant plus tard qu'un monde nucléarisé fait vraiment peur. Toute augmentation de l'arsenal nucléaire américain représenterait un changement majeur de la politique de Washington, qui a toujours mis l'accent sur la réduction de telles armes.
Merci d'écouter VOA Afrique.